Et salut tout le monde, c'est Mehdi pour un décent podcast et une nouvelle brève de jeu. Aujourd'hui, on va parler de jeux de roll and write, des jeux où on va lancer des dés et cocher les trucs. La vidéo va être organisée très simplement. Je vais commencer par définir à peu près ce que c'est. Ensuite, je vais évoquer des jeux, simplement, en commençant par les plus connus. Puis après, je vais détailler des jeux que moi, je privilégie, que j'apprécie particulièrement avoir dans ma ludothèque et ressortir régulièrement. Et ensuite, je ferai une troisième section sur tout ce qu'il peut y avoir autour du genre du roll and write et les petites évolutions de ce style de jeu. Comme d'hab, au niveau du budget, je vais être assez variable. Il y aura des choses assez accessibles, donc je vais aller d'environ 15 euros à 45 euros. Histoire qu'il y en ait pour toutes les bourses si jamais vous servez de ce genre de vidéo pour vous faire des conseils jeux. Et avant de passer à la suite, on envoie l'habituel jingle. Alors, roll and write, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se cache derrière ce terme barbare? Eh ben, c'est simplement un jeu où tu lances des dés et où tu vas écrire, cocher des trucs sur une feuille. Sachant que chaque feuille sert pour une partie en général. Alors, il n'y a pas toujours forcément des dés dans ce style de jeu, je détaillerai un peu plus tard. C'est un jeu qui a connu une hype énorme avec une frénésie de production énorme durant les 2-3 ans qui ont précédé la période Covid. Donc on a eu vraiment plein de choses là-dessus, et tu peux en trouver assez facilement en boutique spécialisée à peu près partout. Cela dit, avant de parler des jeux que je kiffe, je voulais citer 2-3 petites boîtes que tu as très probablement croisées au cours de ta vie. Le jeu de Roll and Write le plus connu qui existe, c'est simplement le Yams, ou le Yahtzee. Voilà, donc ça, le Yams et le Yahtzee, je pense que à peu près tout le monde y a joué ou en a entendu parler, donc il n'y a pas de problème. C'est un jeu qui a une soixantaine d'années aujourd'hui. Ça, tu peux le trouver à peu près n'importe où. Mais il y a un autre jeu, plus récent, mais qui traîne ses guêtres en boutique SP depuis 10-11 ans, qui est un roll and write assez connu et même reconnu, c'est un jeu de chez Gigami qui s'appelle Quix. Donc ça aussi, il y a des chances que t'aies vu la boîte, que voire même t'aies vu des potes qui en avaient dans leur ludothèque. C'est un jeu très facile, hein, voilà, où il faut cocher des chiffres correspondant à certaines couleurs sur les lignes adéquates et gagner le plus de points en cochant, si possible, le plus de cases possible au cours d'une partie. Et plus récemment, toujours en restant dans les jeux qui me semblent iconiques et assez visibles pour tout le monde, il y a Welcome, enfin la gamme Welcome To, donc Welcome, Welcome to Las Vegas et Welcome to the Moon, de chez Blue Cocker et créé par Benoît Turpin. Là aussi sur des roll and write, alors notamment le premier qui est pas difficile, pas facile à prendre en main la première partie parce qu'il y a plein de petits trucs quand même, mais qui est vraiment vraiment très très cool. Ça, c'est un jeu que tu trouves autour de 22 € et un peu moins de 40 pour la version Welcome to the Moon qui rajoute un côté Legacy. Vraiment, Welcome, aujourd'hui, dans ce qui se veut d'assez moderne et d'assez contemporain, c'est quasiment l'incontournable. Voilà. Je voulais pas trop en parler dans cette vidéo parce que j'estime qu'il y en a plein qui l'ont fait et moi, je voulais parler de jeux un chouïa différents et qui me touchent plus et que je trouve plus qualitatifs à titre personnel. Mais Welcome plaît à beaucoup de monde, donc tu peux vraiment aller te jeter dessus. Allez, sans plus tarder, je vais passer à ma sélection perso, et je vais commencer par les plus simples, qui sont aussi les moins chers, parce qu'on les trouve autour de 15 €. C'est édité chez Schmitt, c'est très futé à la puissance 3, vraiment très futé, enfin c'est la gamme très futé, en fait, très futé, qui est une boîte avec le titre bleu, qui est le premier opus, que je n'ai pas en ma possession. Là, j'ai les deux jeux avec les recharges de blocs pour vraiment très futé. Ce sont des jeux assez simples, où il va falloir cocher sur des zones de couleurs bleu, jaune, marron, vert, rose, peu importe. Le système de résolution est très très simple. On va jouer un certain nombre de manches qui dépendent de si on est 1, 2, 3 ou 4. C'est un jeu qu'on peut jouer en solo. À chaque fois, il y a un joueur actif ou une joueuse active qui va lancer les dés et en choisir 3 maximum pendant son tour, sachant qu'elle ne pourra pas garder n'importe quel dé. Parce qu'en fait, elle va en prendre un et va retirer de l'équation tous les dés qui sont inférieurs en termes de valeur. Donc si je sélectionne un 4, tout dé qui sera inférieur à 4 parmi ceux que je laisse de côté seront définitivement mis de côté pour moi pour ce tour. Et ensuite on relance le reste et on refait l'opération jusqu'à avoir 3 dés au maximum. On peut se retrouver qu'avec 2 dés, mais c'est vraiment pas intéressant. Et la couleur du dé te fait cocher la valeur indiquée sur la zone adéquate. Et elles vont te faire gagner des points de manière assez différente. Il y en a, il va falloir juste cumuler le plus de points dessus. Il y en a qui vont te dire, bah, tu mets pas n'importe comment, il faut faire des lignes et des colonnes. D'autres qui vont dire, il faut aller de manière croissante. Ou alors, on peut sauter des cases, mais on ne peut plus revenir en arrière, etc., etc. Donc, c'est pas très interactif. Le petit élément interactif, cela dit, c'est qu'à la fin, les dés qui restent, et ben, tous les autres joueurs et toutes les autres joueuses vont pouvoir en sélectionner un parmi ceux-là, n'importe lequel, on peut être plusieurs à choisir le même, et résoudre la coche correspondant à la valeur du dé et à sa couleur. Voilà tout simplement ce que tu as à savoir pour faire ta première partie de tréfuté, vraiment tréfuté ou hyper futé. Il y a un packaging qui peut être repoussant, entre guillemets, parce que ça fait un peu vieillot, certes, mais le système de jeu est très très efficace. Deuxième gamme de jeux, ça va être une gamme avec des jeux fortement colorés. C'est la gamme Railroad Inc. Alors, j'ai pu récupérer une boîte de la version orange. Moi, je me suis procuré celle-là avec mes deniers personnels. Ce sont des jeux de roll and write, et là, il n'y a pas d'arnaque. Hein. On lance des dés et on va cocher les trucs. Il va falloir globalement faire des chemins de fer et des routes sur un plateau individuel qui était façable avec un système de Velleda. C'est assez facile à jouer. C'est pas facile de faire les bons coups les premières fois. Parce qu'au début, on peut penser qu'on fait ce qu'on veut, mais vraiment, c'est loin d'être évident sur le long cours. En fait, il va falloir gagner le plus de points en faisant des routes et des chemins de fer, en respectant certaines consignes. Globalement, on va lancer 4 dés à chaque manche, et puis les gens vont devoir utiliser l'intégralité de ces 4 dés. Alors parfois, ça sera des dés qui indiqueront uniquement des autoroutes, alors soit en croix, soit en ligne droite, soit en virage. Ça peut être aussi que des chemins de fer, ou alors ça peut être un assemblement des deux. Un chemin de fer qui finit sur un carré noir qui représente une gare et qui va se continuer par une autoroute. Et le but est de faire le plus de liens possible. Sachant que dans les versions bleues et rouge, enfin orange, on est vraiment sur ça, plus deux extensions qui sont composées de deux dés chacune qu'on va pouvoir utiliser pour complexifier le jeu. Dans la version vers Luxuriant, il y a des objectifs en plus qui correspondent soit aux objectifs des extensions, soit des objectifs neutres qui vont te demander de faire certaines choses en plus d'essayer de te débrouiller à gagner le plus de points. Donc des objectifs vont te demander de dire voilà, il faut occuper toutes les cases centrales ou il faut avoir tant de cases gares placées sur ton plateau, etc., etc. Et en fait, tu vas faire ça un certain nombre de manches. Arrivé à la dernière manche, on va compter les points par rapport à la route la plus longue, le chemin de fer le plus long, les sorties d'autoroute et de chemin de fer les plus nombreuses sur un seul tronçon, donc en fait le plus de choses reliées par un seul réseau autoroutier ou ferroviaire, ou les deux, et puis les objectifs pour la version vers Luxuriant. Alors, c'était initialement chez Edge, c'est aujourd'hui chez Yellow pour la version française. C'est un jeu qui est de Hjalmar H et Lorenzo Silva. Il y a quatre boîtes en tout qui existent, il y a deux, enfin une bleue, une rouge, une jaune et une verte. Les jaunes, les bleus et les rouges devraient ressortir prochainement, je ne sais pas exactement quand. Et après, il y a plein de petites extensions qui sont des blocs de 2D qui vont te rajouter toujours plus de variété dans le jeu. Donc là, pas énormément d'interactions. Il y a juste moyen de tricher un peu en sélectionnant des phases 2D différentes en cochant des trucs sur ton plateau, en trichant sur, en t'ajoutant des choix un peu plus sympas. Mais très peu interactif, ce qui est souvent le cas chez les Roll and Write. Le prochain jeu, j'avais fait une review il y a longtemps sur Cartographers, qui comporte trois boîtes aujourd'hui. Donc il y a la version Cartographers classique. On a aussi Cartographers Heroes et Cartographers les map packs, donc qui sont les packs d'extension, qui sont vraiment, vraiment, vraiment. Bah là, des jeux très très bons, avec de l'interaction cette fois-ci. Je te renvoie vers la vidéo de Cartographers, la première boîte de base. Qui était sorti il y a à peu près 2 ans, donc je mets le lien dans la description. C'est un jeu là où on va cocher des choses en fonction d'un tirage de cartes. Et chaque manche, on va jouer 4 manches maximum, on va devoir répondre à des objectifs qui vont rapporter des points deux par deux à chaque manche. Et en gros, tu pioches une carte, elle va t'indiquer une couleur, donc un type de territoire, et une forme qui ressemble à une forme de Tetris, et il faut que tu les cales sur ta feuille individuelle. Donc le but étant de connecter des lignes, de faire des zones de certaines façons, de les mettre à côté de certaines zones, etc. Sachant que ce qui est malin dedans, en termes d'interaction, ce qui rend le jeu assez savoureux à mes yeux, c'est que des fois il va y avoir des cartes qu'on va piocher qui sont des cartes embuscades. Et là tu vas prendre la feuille de quelqu'un d'autre, et tu vas donner ta feuille à quelqu'un d'autre, et les gens vont dessiner sur la feuille de leur adversaire des cases qui sont pourries. Parce qu'en fait, toutes les cases qui les entourent, qui n'ont pas été cochées par quelque chose d'autre, font perdre des points à la fin de chaque manche. Donc ça te fait perdre du temps, donc tu as une notion où est-ce que je perds du temps pour ne pas perdre des points, ou est-ce que j'accepte de perdre des points et de compenser la perte due à ces cases embuscades. Donc ça, c'est un jeu de chez Intrafin qu'on trouve autour de 20 balles environ, chacune des deux boîtes de base, parce qu'il y a la version Heroes aussi qui est une version alternative, qui fonctionne globalement de la même façon avec quelques règles en plus, et il y a les map packs qui sont des extensions qui vont changer les plateaux, en fait tout simplement, et rajouter quelques cartes embuscades sympathiques. Voilà, donc c'est de Jordi Adan, c'est très très bon, c'est très facile à jouer, et puis ça peut jouer quel que soit le nombre. Et le dernier jeu de ma sélection favorite en matière de Roll'n'Ride, c'est un jeu de chez Pearl Games qui s'appelle 3 Dice. Ça, j'en avais pas parlé en vidéo, j'en avais parlé sur notre compte Instagram, je crois, sur celui d'un des 100 podcasts. Là, c'est un jeu de Roll'n'Ride, donc là, on lance des dés. Vous voyez, j'ai fait une alternance quand même. Qui peut se jouer en solitaire. Alors, tous ces jeux peuvent se jouer en solitaire, mais là, ils se jouent jusqu'à... ils mettent jusqu'à 10, mais voilà, tu peux jouer 1, 2, 3, 4, hein, je conseille de ne pas être trop nombreux et nombreuses. Ici, il n'y aura aucune interaction. Clairement, il y a des défis qui permettent de faire des trucs un peu plus cool, mais en termes d'interaction, on est quand même chacun dans son coin, donc c'est un très bon jeu, si tu veux faire du solo, notamment. Sachant que l'éditeur avait mis pas mal de défis à l'époque du confinement, il avait fait des défis pour la Saint-Valentin aussi, je crois, donc... à vérifier cette deuxième information là, mais en tout cas si je retrouve d'ici le montage, je mets tous les liens qu'il faut vers la description. Là c'est un jeu qui est le plus complexe des 4 gammes, bon lui que c'est pas une gamme, il y a qu'un jeu pour l'instant que je présente ici, il est autour de 25 € en boutique spécialisée, c'est distribué par Novalis, donc c'est assez facilement trouvable. C'est un jeu de Sébastien Dujardin, Xavier Georges et Alain Orban. Je regarde parce que les noms, j'ai beaucoup de mal à les retenir à chaque fois sur les boîtes de jeu. C'est un jeu qui va être assez, assez savoureux. Petit côté jeu expert, entre guillemets, dedans, même s'il reste assez simple. Tu vas avoir une espèce de roue à cran. Tu vas jouer en 8 manches, en fait, tout simplement. Et à chaque fois, tu as une partie jour et une partie nuit. Une partie sombre et claire. Et en fait, chaque manche, tu vas jouer sur les deux faces. Tu as 4 dés. 3 transparents et un noir. Tu as des tuiles recto-verso qui sont de couleur blanche, rouge et jaune, et ça peut changer selon le recto et le verso aussi. Et en fait, tu vas placer le plateau comme indiqué, tu vas lancer les dés et tu vas les placer sur les 4 cases correspondant aux 4 tuiles, pardon, correspondant aux 4 emplacements de jour ou de nuit. Et en fait, tu vas sélectionner à ton tour un dé en payant le nombre de ressources indiquées dessus qui va te permettre de cocher des bâtiments. T'as des bâtiments de 3 couleurs, t'as des bâtiments rouges, des bâtiments militaires qui vont t'aider à protéger des colonnes, j'y viendrai plus tard. Tu as des bâtiments jaunes qui vont t'aider à gagner des ressources, très majoritairement. Et des bâtiments blancs qui servent essentiellement de multiplicateur de points à la fin de la partie. Sachant qu'il y a 2 lignes sur chaque type de couleur, et la deuxième ligne, en dessous, te rapporte simplement des habitants qui vont te rapporter des points de victoire à la fin de la partie, et puis qui vont te permettre de débloquer certaines ressources, certains bâtiments. Arriver à un certain niveau. Et en fait, il y a un dé de couleur noire qui va servir à rien pendant les trois premières manches, mais à partir de la quatrième, donc pendant un peu plus de la moitié de la partie, il va pouvoir poser les désagréments. C'est-à-dire qu'à chaque fois, le chiffre qu'il indique détruira la colonne de la couleur indiquée par la tuile sur laquelle il se trouve. Donc s'il est sur du rouge, il va détruire une colonne rouge, et s'il est sur sa face 3, il va détruire une colonne 3. Parce que tu as des colonnes qui sont numérotées sur chaque feuille de chaque personne qui joue, de 1 à 6 pour les premières parties, hein, ce que je conseille, mais après tu peux faire un peu un patchwork, un mélange, etc. Donc si t'as pas construit de forteresse, donc de bâtiment rouge sur la colonne 3, en fait, les deux bâtiments de rouge de la colonne 3 seront détruits. Tout simplement. Si tu as déjà construit des choses ciblées par la destruction du dé noir, elles ne sont pas détruites. Tu les as construites, c'est à toi. Et le but est d'optimiser tout ça comme ça, sachant que chaque couleur a bien une mentalité, une façon de gagner les points différente, et le but va être de construire suffisamment de rouge, ou de jaune, ou de blanc, pour pouvoir maxer avec les cathédrales qui vont être des multiplicateurs de points. Alors je vais pas aller plus loin sur les explications de 3 Dice, je te redirige vers une ou deux vidéos dans la section description de la vidéo YouTube. Cela dit, Ça reste un jeu qui est assez simple à jouer, en fait. Hein. C'est vraiment, tu as les dés qui sont posés, tu choisis un dé à ton tour, tu coches. Et en fait, soit ça te permet de construire un bâtiment, soit ça te permet de gagner des ressources, qui vont te permettre de payer d'autres bâtiments plus tard, éventuellement, etc., etc. C'est les deux choix que tu as. Et une fois que tout le monde a fait ça, on passe sur la phase nuit, par exemple, si on était à la phase de jour. Et puis, on fait exactement la même chose avec d'autres tuiles. Donc voilà, pas très compliqué, mais il y a du challenge quand même. Au niveau des règles, ça se veut un minimum crunchy, et on est vraiment au-dessus du reste en termes de complexité de jeu. Après tout, c'est un jeu Pearl Games, donc on est sur des jeux qui sont très intéressants en termes de mécanique. On passe à la troisième partie, sur les mentions spéciales, entre guillemets, sur la popularité du genre et ses variations. Parce que comme je te disais en début de vidéo, il y a eu une frénésie de production sur les jeux de Roll&Write avant la Covid, tout le jeu de société est devenu très friand de ce genre de choses. Et du coup, ça se matérialise de deux façons d'après moi. D'un côté, on a des jeux qui se retrouvent avec des versions Roll&Write de leur jeu. Donc on a une version Roll&Write de Rage of the Gange, une version Roll&Write de Imperial Settlers, de 3 Dice justement, parce que c'est un jeu qui s'appelle 3 à la base, donc du coup c'est la preuve que. Château de Bourgogne, King Domino Duel, Patchwork Doodle, etc. Donc ça devient un hack qui est récurrent, plutôt que d'en faire une version à deux. Ce qui peut arriver en fait à certaines boîtes, et ben là en fait on a la version Roll&Write de pas mal de jeux aujourd'hui. Et de l'autre côté, du côté de la variation du genre, il y a de plus en plus de Roll&Write qui deviennent velus en termes de complexité, qui lorgnent du côté jeu expert, hein, jeu de stratégie. Alors effectivement, il y a 3 Dice dont j'ai parlé, mais il y a des jeux qui sont quand même plus complexes et qui sont des Roll&Write assez particuliers, du coup, parce qu'ils transforment vraiment le genre, comme Rum and Roll de chez Super Meeple. Et par exemple, il y a une autre boîte, alors là, je ne l'expliquerai pas, parce que ça serait juste carrément trop long. C'est le mur d'Adrien de chez Pixie Games. C'est vraiment, là, vous voyez, j'essaye de montrer à l'image à quel point c'est quand même velu. C'est un jeu qui est très proche de Paladin du Royaume de l'Ouest. Pareil, je te mets des vidéos en description. Ou Paladin du Royaume de l'Ouest, c'est un jeu qui, arrivé au milieu de la partie, te fait fumer ton cerveau à chaque tour de jeu. Voilà, il y a tellement de possibilités, c'est pas très complexe, mais c'est tellement de possibilités que on est sur un truc chaud. Et là, en fait, c'est un jeu qui pourrait très bien se faire sans feuilles. Alors, ils auraient pu mettre des plateaux individuels dedans, parce qu'il y a des pions, il y a des cartes, il y a de quoi cocher, mais en fait, ça pourrait être vraiment des plateaux individuels. Donc on a un style, qui est Roll&Write, qui se métamorphose en proposant des solutions vraiment plus poussé en termes de mécanique, et qui forcément s'opère différemment que dans un jeu comme Welcome ou Railroad Inc. ou Cartographers. Donc ça, si tu veux te casser la tronche, c'est très 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 bon. Très très bon. La description contient des liens vers des infos sur le mur d'Adrien. Et bien voilà, c'est la fin de cette brève de jeu sur les Roll and Write. Et les Draw and Write. Hein. J'espère que ça t'aura plu, j'espère que j'ai été assez clair dans la description des jeux et les informations. En tout cas, moi, ça m'a bien plu d'en parler. Et si t'as des questions, n'hésite pas à venir le mettre en commentaire, j'y répondrai le plus possible. Et du coup, ça peut être pas mal aussi d'expliquer à quel jeu tu joues ou de quel jeu t'as entendu parler. Parce que là, j'ai parlé de jeux, mais c'est loin d'être les seuls. Comme je disais, il y avait une production assez conséquente ces dernières années. Voilà, n'hésite pas à partager cette vidéo ou ce podcast où tu peux, à le faire partager à tes potes ou sur les réseaux sociaux. Hein. N'oublie pas qu'on est sur Facebook, Twitter, Instagram, Discord, on est sur YouTube, sur Twitch et sur pas mal de plateformes de podcasts. Et puis d'ici une prochaine vidéo, un prochain podcast, un prochain live YouTube, on te souhaite une excellente journée, soirée ou nuit selon l'heure à laquelle tu m'écoutes. À la prochaine!